Bonjour et bienvenue sur le podcast de Paroles de Plume, un podcast d'écriture à destination des auteurices et des différents actrices du monde du livre. Je suis Marie-Ève Flory, autrice de plusieurs romans issus des genres de l'imaginaire et de la romance, notamment Héritier du solstice aux éditions Bookmark et Become Book Boyfriend aux éditions Hachette Roman. Je suis également rédactrice web et chargée de communication. Via Paroles de Plume et Savoir de Plume, je souhaite lier mes compétences en communication à ma passion pour l'écriture, en délivrant mes conseils en écriture ainsi que ceux d'autres auteuristes reçus en interview. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello les plumes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis avec Samantha, que vous avez déjà pu entendre sur le podcast. Et aujourd'hui, elle vient nous parler d'un tout nouveau projet. Mais avant qu'elle nous en dise un peu plus et qu'elle développe tout au long de cet épisode, Samantha, coucou et bienvenue à toi sur le podcast.
Merci beaucoup. Coucou Marie.
Coucou. Donc, du coup, pour qu'on replace tout de suite, est-ce que, même si je t'avais déjà reçu dans un épisode précédent, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ?
Oui. Alors, je suis Samantha Fettelson et j'ai du coup déjà écrit plusieurs livres, mais j'en ai un qui est sorti il y a moins d'un an, en fait. C'était au mois de mai 2023, qui est une romantisée en one-shot qui s'appelle Ad Mortem. Et donc il est sorti dans la maison d'édition Beta Publisher. Et je suis à côté de ça encore un petit peu, pour le moment, prof de musique en école primaire à Genève. Je suis en pleine reconversion, voilà. Et je profite un petit peu, j'ai profité d'avoir un petit peu de temps cette année pour faire plusieurs projets comme ça, sous le tapis, sans en parler. Et du coup, je viens pour parler de ce nouveau projet.
Très bien. Donc, du coup, tu nous as dit que tu avais été publié en 2023 chez Beta Publisher. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la maison d'édition et ensuite nous parler de ce nouveau projet, puisque ça s'inscrit vraiment dans quelque chose complètement avec ta maison d'édition Beta Publisher. Ça va être tout nouveau et pour eux et pour toi. Donc, est-ce que tu veux bien nous les présenter, s'il te plaît ?
Avec plaisir. Donc, Beta Publisher, c'est une petite maison d'édition indépendante qui est spécialisée dans la littérature de genre jusque maintenant. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est fantastique, fantasy, imaginaire, thriller, polar, de plus en plus de romances aussi. Et donc, cette maison d'édition lance cette année une nouvelle collection qui s'appelle « À sexe égal », qui est une collection qui est ciblée sur le féminisme et pour essayer de mettre en avant le féminisme dans la littérature sous différentes formes, en fait. Donc, ça peut être sous forme de romans, d'essais, de nouvelles, de bandes dessinées aussi. C'est la volonté est de, en fait, donner la parole sous le plus de formes possibles pour mettre en avant et mettre en valeur le féminisme dans la littérature. Et du coup, j'ai, ces derniers mois, réfléchi un petit peu, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Je me suis lancée dans l'écriture d'un guide sur le féminisme que j'ai fait sous forme de guide de voyage parce que je trouvais ça assez drôle. Donc, c'est vraiment un guide de voyage en plusieurs parties. On part vraiment sur le thème du voyage. Et c'est dans une volonté, en fait, de pouvoir parler. Je me suis dit, en fait, je me suis rendu compte, en fait, moi, dans mon parcours personnel, dans ma vie privée comme professionnelle, que la notion du féminisme, c'est toujours très souvent très flou, en fait, pour les gens.
Oui.
Et qui voient souvent ça, en fait, comme quelque chose de très... souvent, c'est une affaire de militantisme extrême. Alors que pas du tout, c'est pas une affaire de penseur et d'intellectuel qui a pas besoin d'avoir lu des textes de Simone de Beauvoir ou quoi que ce soit pour être féministe et pour pouvoir en parler. Et le but de ce guide, c'est de pouvoir en fait en parler de façon simple, humoristique et d'éveiller un petit peu les consciences sur ce mouvement, d'où il vient, pourquoi il est important et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour le féminisme et faire avancer le féminisme.
D'accord. Avant qu'on revienne un petit peu plus en détail sur ton guide, est-ce que tu peux donc nous dire quelle a été ton implication dans cette nouvelle collection ? Alors, en rédigeant le guide, forcément, mais voilà, je sais que tu as pu travailler sur, on va dire, d'autres manières que juste en tant qu'autrice avec Beta Publisher dernièrement. Donc, quelle a été ton implication au niveau de la création de cette collection ?
Alors, en fait, c'est juste que comme j'avais du temps cette année, j'ai intégré le comité de lecture. Et du coup, j'ai pu, avec d'autres personnes, lire des manuscrits pour l'appel à texte de cette nouvelle collection qui s'appelle La Sexe Égale. Je ne sais même plus si j'ai dit le nom. La collection s'appelle La Sexe Égale.
On peut la répéter, il n'y a pas de problème.
Voilà, ça ne fait pas de mal. Et du coup, j'ai pu lire plusieurs manuscrits. Et j'ai pu remarquer, on s'est fait la réflexion avec les autres personnes du comité de lecture, que la notion de qu'est-ce que c'est un texte féministe, c'est souvent très flou et les gens ont un peu du mal. Souvent, c'est juste, tiens, il y a des femmes dedans, donc c'est féministe, mais il n'y a pas forcément un message qui est véhiculé derrière. Et du coup, déjà que j'avais cette envie, cette réflexion, je me disais, expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le féminisme, je me suis dit, en fait, je crois je vais vraiment franchir le pas et le faire. Ouais. Et du coup, voilà. Après, moi, j'ai donc juste lu quelques manuscrits au sein du comité de lecture. Et après, sinon, c'est juste que je suis autrice et que, du coup, c'est mon livre, mon guide qui sort en premier dans la collection. Et voilà.
D'accord. Et donc, c'est la maison d'édition qui a l'initiative de cette collection. C'est pas les auteurs qui sont arrivés à toquer à la porte de leurs éditeuristes en disant « on aimerait pouvoir bosser sur tel ou tel projet ». Non, c'est vraiment une initiative de Beta Publisher.
Oui, complètement. C'est une initiative de la maison d'édition qui pensait depuis un petit moment, je crois, et qui s'est dit qu'elles avaient envie de lancer du coup cette nouvelle collection parce qu'elles trouvent ça important. C'est déjà une maison d'édition qui est assez engagée de base, ne serait-ce que parce que elle revendique le fait de faire de l'édition la publication à la demande. Parce que pour des valeurs écologiques et ne pas éditer, publier des tas de livres pour se retrouver avec des tas de livres à mettre au pilon à la fin de l'année et voilà, c'est vraiment pas écologique pour le coup. Et du coup, c'est je pense un cheminement de pensée qui continue dans le cadre de la maison d'édition. C'est quelque chose que j'aimais déjà beaucoup de base dans la maison d'édition, et quand j'ai vu l'appel à texte et tout ça, je me suis dit mais je trouve ça génial, et j'ai eu envie en fait de pouvoir y mettre ma patte aussi, parce que ça a été un peu le déclic sur ma réflexion, parce que comme j'ai dit, mon cadre privé ou professionnel, j'ai pu être témoin ou victime de comportements qui vont à l'encontre du féminisme, qui m'ont fait bien grincer les dents, et que je me dis parfois, ces personnes-là, on les avait un petit peu plus éduquées à la pensée féministe, comme j'essaye de faire de mon côté avec mon fils, peut-être qu'on pourrait éviter bien des choses.
Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous dire... je me permets, parce qu'on en a parlé un petit peu en off avant d'enregistrer l'épisode, c'est vrai que la vision du féminisme peut beaucoup changer d'une personne à une autre, on n'en a pas tous forcément la même définition. Alors, ce qui n'est pas forcément plus mal, puisqu'on a chacun notre perception des choses. Mais du coup, toi, quelle est pour toi la définition du féminisme ?
C'est une bonne question. Pour moi, être féministe, c'est déjà reconnaître que les femmes sont égales à l'homme, qu'il n'y a pas l'homme est supérieur à la femme. C'est aussi, je pense, du coup, de par le fait d'être féministe, c'est vouloir, ça inclut en fait le fait de pouvoir vouloir être l'égalité en fait pour tous. Le féminisme est un combat qui est là depuis, en fait, ça date pas d'il y a 10 ans, c'est là depuis très longtemps. La première féministe, elle s'appelait Christine de Pouzan, elle date du Moyen-Âge.
D'accord.
Donc, c'était, je crois, que je dise pas de bêtises, parce que je confonds un petit peu toutes les dates maintenant, après l'écriture, mais elle a été, je crois, en 800 et quelques, donc ça date d'il y a très très longtemps. C'est un combat qui date d'il y a longtemps, mais du coup, ce combat pour les minorités, parce que les femmes représentaient la minorité à l'époque, ça a amené aussi du coup un combat pour d'autres personnes, d'autres minorités, comme les personnes LGBTQ+, et tout ça. Et du coup, je pense que c'est un combat qui est important parce qu'il a ouvert d'autres combats tout autour. Oui.
D'accord.
J'ai l'impression de perdre un peu dans mon
fonctionnement de
pensée.
Non, mais pas de problème. Donc maintenant que tu nous as donné un petit peu ta vision de la chose, est-ce que tu peux nous dire comment tu as construit ce guide ? Comment tu t'es documenté ? Comment tu... parce que bon, il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on connaît, mais entre écrire une histoire féministe où on va faire vivre aussi un personnage fictif, selon nos idées et nos pensées, c'est un fait, mais après, là, quand tu te lances dans l'écriture d'un guide, forcément, il faut aussi des preuves à l'appui, je suppose,
ouais.
Étayer ses recherches. Donc, quelle a été la phase de construction de ce guide ?
Alors, ça a été, en fait, parce que de base, je me suis dit, tiens, allez, je me lance, je fais ce guide. J'ai une culture du féminisme ancrée en moi depuis des années parce que je consomme beaucoup de contenu féministe, que ce soit par des vidéos sur YouTube, tout d'un coup j'ai des gens sur Instagram que je suis, des choses comme ça, ou des textes que j'ai lus à droite à gauche. Et en fait, j'avais une connaissance en moi que j'avais envie de pouvoir partager, mais sauf que quand on fait un guide, comme tu dis, c'est pas un roman que t'écris,
oui.
Il faut pouvoir amener ses sources et parler, dire j'invente pas ça, et pouvoir étayer ses propos et prouver d'où ça vient. Et du coup, ça a été un petit peu, ça a été toute une recherche de fond pour essayer de retrouver où je me disais, tiens, en fait, ça je sais que j'en ai entendu parler, mais où est-ce que j'en ai entendu parler? Donc il y a eu beaucoup de travail de recherche derrière pour essayer de retrouver un petit peu les sources, tout ça, même ne serait-ce que du coup dans le fait de, au moment de citer ses sources, mon éditrice qui était, tu peux pas juste me balancer l'adresse web comme ça, en fait. Il y a une façon de faire. Je dis, ah bon, d'accord, ok, je vais me renseigner, je vais faire ça bien, pardon, allez, je recommence et je reviens. Et il y a eu du coup tout ce travail de fond qui était nouveau pour moi dans un processus d'écriture parce que, parce que quand on écrit un roman, forcément, on fait parfois des recherches sur des sujets X ou Y, mais derrière... je veux dire, on n'a pas à devoir approuver non plus ce qu'on a trouvé, oui. Ce qu'on a cherché et tout ça. Donc, il y avait déjà tout ce travail de fond à faire. Et puis après, mon axe principal, c'était de rester sur un contenu qui reste ludique et accessible.
Oui.
Et du coup, qu'on retrouve des informations historiques sur la naissance du féminisme, ces grandes figures, qu'elles soient féminines ou masculines, mais qui aussi des quiz, des anecdotes, parce que c'était important pour moi, en fait, de faire quelque chose de très ludique parce que je suis prof de musique, je l'ai dit au début, et que ma façon d'enseigner la musique, la façon dont on m'a appris à enseigner la musique, c'est en s'amusant, en faisant des jeux, en racontant des histoires. Et du coup, cette façon que j'ai d'enseigner depuis 10 ans avec les enfants, j'avais envie que ça puisse ressentir aussi dans mon guide et qu'on puisse apprendre des choses, mais s'amuser en même temps. Parce que de toutes les manières, c'est prouvé, on n'apprend jamais aussi bien qu'en s'amusant. Hein. Et du coup, je voulais garder vraiment cet aspect-là. D'accord. Donc du coup, voilà. Et puis dans ce guide, du coup, on regarde l'histoire globale du féminisme, mais aussi ses concepts et sa pluralité, avec un petit tour du monde. Parce que je trouvais important de ne pas être juste centré sur nous, et sur ce qui se passe en France, mais aussi sur ce qui se passe de par le monde. Ne serait-ce parce que moi, j'avais une grand-mère qui était iranienne. Donc, quand j'ai grandi un peu avec toute cette culture orientale iranienne. Et depuis quelques années, on voit les femmes iraniennes qui se battent pour avoir le droit d'être qui elles sont, de ne pas être obligées de dépendre d'un homme, de devoir porter le voile. Et qu'il y en a plein qui manifestent, qui se battent pour ça. Il y en a qui meurent aussi pour ça. Et du coup, pour moi, c'était important de montrer un petit peu partout dans le monde. D'où le guide de voyage, du coup. Parce que c'est un guide de voyage à travers le monde sous le prisme du féminisme.
D'accord, ok. Je trouve ça hyper intéressant de ne pas se focaliser sur la vision, on va dire, occidentale. Même si, effectivement, il existe des livres qui vont se pencher sur... Mais c'est vrai que souvent, un ouvrage va être ciblé sur un pays ou un continent ou une culture... même si toutes les cultures, je pense, sont représentées sur les étagères des librairies, c'est vrai qu'en général, on n'a pas forcément tout qui est rassemblés ensemble, on va dire.
Non, c'est clair. Et en fait, c'est, je trouvais ça important parce que d'autant plus quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai découvert par exemple que la première fois qu'on a fait et qu'il y a eu cette journée internationale des femmes, c'était en 1911. Et au début, ça a réuni en fait, je crois, un peu plus d'un million de personnes en Autriche, ouais. En Allemagne,
d'accord.
Au Danemark et en Suisse.
D'accord.
Et c'était juste quatre pays. Et juste parce que ces quatre pays se sont bougés, bah, du coup, c'est devenu un événement mondial et c'est devenu une journée internationale au niveau du mondial avec énormément de pays. Je ne dirais pas que tous les pays le font, mais énormément de pays qui ont cette journée pour sensibiliser sur les droits des femmes. Et du coup, bah, je trouve ça excellent, en fait. Je trouvais ça vraiment excellent, en fait, d'apprendre ça. Et du coup, je trouvais vraiment important de montrer que, du coup, le féminisme, de par un endroit dans le monde, en fait, forcément, il a des répercussions ailleurs dans le monde plus tard.
D'accord. Ok. Et après, pour rester sur la construction du guide en lui-même, donc toi, ouais. Tu as rédigé, tu as fait les recherches, tu as rédigé. Et après, ouais. Pour, comme tu l'as dit, il est comme fait de manière ludique. Alors, est-ce que c'est toi qui as pensé, on va dire, par exemple, les quiz, les jeux, qui les a mis en page? Ou après, est-ce que du coup, ça a été, tu as reçu l'aide, par exemple, de graphistes ou de, on va dire, de personnes spécialisées dans le livre ludique pour t'aider à... après à faire la mise en page, ou c'est toi qui a construit aussi, on va dire, un petit peu l'objet livre?
Alors, l'objet livre, moi, je suis venue vraiment, du coup, avec mon texte Word, un petit peu brouillon avec des choses. Et après, l'objet livre, on l'a vraiment créé à deux avec mon éditrice.
D'accord.
On s'est dit, allez, on a le code couleur de la collection, qui est donc bleu et rose. Et ensuite, on s'est dit, bah, on s'amuse, on fait, et elle a vraiment plus l'œil pour ça. On s'amusait à deux à faire vraiment à créer ça sous forme de guide de voyage. Et ça, vraiment, pour d'accord. Le coup, la construction du guide de voyage, ça a vraiment été un travail à deux.
D'accord, ok. Donc toi, t'as vraiment fait le texte brut, quoi.
Ouais. Ouais, okay. Ouais. Et puis après, elle me proposait des choses et à chaque fois, j'étais bah, c'est super, j'adore, j'aurais fait pareil, sauf que je suis moins douée au niveau graphisme, donc c'est trop bien.
Et au niveau du travail éditorial, quelles sont les différences avec un roman? Parce que bon, je suppose que vous avez quand même relu, retravaillé des formulations. Nous, on va pas lire ton texte brut, entre guillemets. Enfin, vous n'êtes pas juste contenté de le copier-coller avec un joli graphisme, j'imagine. Donc, par contre, qu'est-ce qui va changer au niveau de la manière de retravailler un texte par rapport à un roman
du coup, en fait, c'était beaucoup plus rapide parce que ad mortem, on avait corrigé, en fait, on fait le système de correction, en fait, avec Beta Publisher, c'est vraiment le correcteur travaille sur deux chapitres, on nous envoie ça, on vérifie, on fait les corrections, tout ça, on renvoie les deux chapitres, ensuite on nous renvoie deux chapitres, donc on fait vraiment deux chapitres par deux chapitres. De façon à pouvoir, si jamais on a envie de dire non, mais ça, en fait, je ne veux pas le modifier parce que ça va être important plus tard. Ça permet de ne pas devoir, du coup, après, devoir revenir sur le texte au tout début. J'aime beaucoup cette façon de faire. Et du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a avancé un petit peu, pareil, parce qu'il y a plusieurs, c'est pas du coup des chapitres, mais des catégories. Et on a avancé comme ça. Forcément, il y a des fois... j'étais tellement dans mon côté un petit peu académique, du coup, que parfois, j'oubliais un petit peu de construire mes phrases comme il faut. Donc, heureusement, j'ai mon éditrice qui est passée derrière qui m'a dit « Alors là, chouchou, tu peux pas l'écrire comme ça, je vais te le réécrire. » J'étais « Ah ouais, c'est mieux, en effet, c'est bien, super. » Et du coup, il y a quand même un travail rédactionnel, parce qu'il y a des moments, c'est pas que des quiz ou des anecdotes, il y a aussi des moments quand je me mets à expliquer, il y a un tour du monde du féminisme où je me mets à expliquer un petit peu en Orient, en Asie, en Europe, en Amérique, quels sont un petit peu les quelques pays, parce que compliqué de prendre tous les pays, mais de prendre des grands mouvements qui ont lieu dans des pays, puis ça prend tout d'un coup toute une page avec beaucoup plus de texte, une narration, et du coup, il y a des moments où, comme quand on écrit un roman, ou ton éditrice qui passe par là qui dit tiens ça ce serait mieux et puis tu dis ah oui et voilà mais d'accord. Du coup c'était intéressant aussi de faire ce travail éditorial comme ça.
Ça doit changer, enfin oui si ça doit être c'est un autre exercice.
c'est un autre exercice et en même temps ça se ressemble. Et en même temps, du coup, il y a un côté beaucoup plus visuel parce que du coup, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup en fait fait en ping-pong où elle m'envoyait un truc et elle me disait ça, comme ça, ça te plaît, c'est trop bien. Ou tout d'un coup, je disais, ah tiens, pour ça, je pensais que peut-être qu'on pourrait le présenter comme ça. Et, du coup, c'est assez marrant du coup parce que je trouve que quand tu écris un roman, tu es vraiment sur le scénario, sur ton histoire, mais il n'y a pas forcément ce côté visuel en fait.
Bah oui, parce que tu sais qu'à la fin tu auras des pages blanches avec du texte noir quoi.
Voilà, exactement. Donc sauf peut-être en littérature jeunesse pour quand il y a des livres illustrés, peut-être qu'ils y pensent, et encore c'est quand même assez séparé souvent avec l'auteur et le dessinateur. Mais du coup là ça a amené un aspect qui était j'ai trouvé ça vraiment très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé cette réflexion autour du visuel.
D'accord. OK. Et donc, est-ce que tu peux nous dire maintenant comment tu as, toi, bah, je pense, mixé ta vision du féminisme, puisque forcément, même si tu fais un guide et que tu essayes d'être au plus impartial possible, c'est pas le mot que je voulais utiliser, objectif peut-être possible, mais bon, forcément, comme on disait tout à l'heure, on a chacun notre vision, je pense, du féminisme. Donc comment tu as fait pour mixer ta vision avec toi, avec des faits historiques réels qui sont actés, passés comme ça, et que, sur lesquels tu vas pas pouvoir te les réapproprier et les réinventer. Donc comment tu as mixé un petit peu ta vision avec l'histoire?
En fait, ma vision était. Je me suis pas sentie en décalage en fait avec des faits historiques ou quoi que ce soit, parce que j'ai appris beaucoup de choses et du coup j'étais très contente de faire ce guide au passage. C'est génial, j'en apprends plein et c'est trop cool. Mais en fait, du coup, comme à chaque fois c'était des événements qui étaient là pour améliorer, pour du mieux. Je me suis jamais vraiment retrouvée dans une situation où je me disais « Ah, bon, je vais en parler, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qui s'est passé. »
D'accord.
Parce que à chaque fois, c'était des événements qui étaient là pour du mieux. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Et je ne me suis pas retrouvée, je pense, comme si, par exemple, tu travailles sur la Seconde Guerre mondiale et que tu dois parler des camps de concentration et puis que tu dis « Mon Dieu, mais c'est horrible, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé.
Oui. »
Tu es en conflit, mais que tu es obligée d'en parler. Là, en fait, c'était quelque chose d'assez fun à faire. Ce n'était pas très lourd, donc c'était assez chouette.
Oui, et puis vous avez aussi choisi de partir, comme tu dis, sur quelque chose de ludique.
Oui.
Et de ne pas aborder le sujet avec gravité, entre guillemets.
Exactement. Parce que le but, c'était, je me suis dit, j'ai des élèves qui ont entre 4 ans et 12 ans, 12-13 ans s'ils ont redoublé. Et déjà, quand ils ont entre 10-12 ans, tu vois quand même des questionnements qui sont là. Je le vois avec mon fils qui va avoir 9 ans, pareil aussi. Souvent, il y a des questionnements autour de ça, l'air de rien, parce qu'ils ont un regard assez neuf sur la société. Et pour moi, c'était important en fait d'écrire quelque chose qui soit accessible aussi pour les plus jeunes, où ils puissent apprendre des choses. Peut-être qu'il y a des parties qui vont être un petit peu plus théoriques et moins amusantes pour eux, et qui seront plus pour des adultes qui ont envie d'apprendre des choses, mais qu'il y ait aussi des choses qu'ils puissent apprendre et qu'ils puissent absorber et prendre pour eux en fait quelque chose. Je voulais que quelque chose qui soit vraiment en fait qui n'ait pas besoin de se dire ok, c'est encore un livre sur le féminisme, mais c'est pour des gens qui sont que intéressés par ça, qui sont déjà éveillés à la conscience féministe, qui sont déjà qui ont besoin d'avoir un master pour comprendre. Le but, c'était de vraiment avoir quelque chose d'accessible à tous et qui soit amusant aussi.
D'accord. Donc si on devait vraiment dire à qui ce guide entre s'adresse, ce serait à tout le monde en fait.
Oui, vraiment, peu importe l'âge, peu importe le genre, peu importe le milieu, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à tout le monde.
D'accord. Ok. Et donc ce guide là, il s'inscrit donc dans une nouvelle collection chez Beta Publisher.
Oui.
Comme on l'a dit, c'est le premier ouvrage qui va être publié. Néanmoins, je suppose que ce n'est pas le dernier. Donc,
alors, non.
Enfin, on vous le souhaite en tout cas. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les projets qu'on pourra dans le futur retrouver dans cette fameuse collection ?
Alors, de ce que je sais, c'est qu'il va y avoir en tout cas des romans. Il y a de la SF qui va arriver, un roman dystopique. Il y a un roman plus contemporain et qui change complètement, j'ai envie de dire, de ce qu'on a vu jusque maintenant chez Beta Publisher. Et qui, pour le coup, c'est vraiment chouette parce que du coup, cette collection offre la possibilité du coup, de voir autre chose dans la maison d'édition. Et puis, on reçoit toujours régulièrement des manuscrits de l'appel à texte. Et je sais que, je crois que j'ai le feu vert de mon éditrice pour en parler. Je sais que je me suis dit, tiens, il y a les Jeux Olympiques cet été à Paris. Oui. Est-ce que je ne ferais pas un guide du féminisme et les Jeux Olympiques ? Parce que d'accord. Ça aussi, dans le sport, c'est un sujet de conversation.
Oui.
Et je sais qu'en fait, quand j'ai commencé ce guide, j'ai dû faire un effort pour essayer de rester centrée, en fait. Et pas commencer à m'éparpiller sur plein de sujets. Parce que je me disais, en fait, il y a tellement de choses à dire sur le sujet que le risque, ce serait que je commence à partir dans tous les sens et me perdre. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un guide sur le JO et le féminisme.
D'accord.
Et voilà, donc il va y avoir plein de choses à venir.
Donc toi, t'aimerais rester sur le format guide pour l'instant ?
Pour le moment, ouais, j'avais cette idée-là. Après, je sais qu'à côté, j'avais commencé à écrire aussi, mais du coup, je l'avais un peu mis de côté. Mais j'avais commencé à écrire une romance saphique, donc une romance entre deux femmes. Et j'ai déjà plein d'idées, j'ai pris plein de notes, j'ai presque tout le scénario en tête, ce qui m'arrive très rarement, hein, parce que pour le coup, je suis vraiment une jardinière qui patauge. C'était d'ailleurs quelque chose de nouveau pour moi, vraiment, de devoir me structurer à fond, en fait, comme quand t'écris une thèse, en fait. Hein.
C'était oui, parce vraiment que du coup, côté, je suppose que t'as fait... Là, t'as dû faire un plan, structurer tes parties, savoir de quoi tu allais parler à l'avance. C'est vrai que,
comme on disait,
c'est pas une fiction, donc t'es obligée vraiment de te structurer.
Exactement, j'étais obligée de savoir, en fait, d'avoir déjà mon plan en avance, avoir mes différentes parties, mes sous-parties, pour être sûre de pas, justement, m'éparpiller et que ça reste bien, bien comme il faut, bien dans les cases. Et, et voilà, et du coup, à côté, comme je disais, j'ai commencé à écrire cette romance saphique et je vais y retourner. Et voilà, mais je ne veux pas me lancer que dans des guides parce que voilà, mais c'est juste, c'était quelque chose, je trouvais que c'était un exercice rigolo à faire et vraiment sympa. Et j'ai eu cette autre idée, donc je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans cette autre idée et après, je pense que je vais revenir à ma petite romance.
D'accord. Et pour les autoristes qui nous écoutent et qui auraient envie de rejoindre cette collection, donc tu nous as parlé d'un appel à texte tout à l'heure, il est toujours ouvert, est-ce que vous êtes toujours en quête de projet ou pour l'instant c'est en stand-by ?
Alors, je sais que la maison d'édition recherche toujours pour ce projet, pour la collection à sexe égal, et il y a moyen, c'est depuis le site internet, de trouver, il y a l'appel à texte en fait, hein. Donc il y a un petit lien pour pouvoir envoyer son manuscrit, mais c'est vraiment que pour cette collection à sexe égal. Après, peu importe donc le format, ça peut être un essai, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un roman, ça peut être une bande dessinée, ça peut être même un livre jeunesse, pourquoi pas, du moment que ça rentre dans la collection. Mais pour tout ce qui n'est pas de la collection à sexe égal, en fait, du coup, les admissions sont fermées. Il y avait eu une ouverture en fin juin 2023. Donc, faut pas se dire qui ne tente rien à rien et envoyer le manuscrit parce que, comme toutes les maisons d'édition, quoi, le comité de lecture voit que ça n'a rien à voir avec le sujet, malheureusement, ce sera pas lu. Donc, voilà.
D'accord. Ok. Et pour les lectrices, eux qui nous écoutent, comment ils peuvent se procurer ce guide, donc à partir du 8 mars. La date n'a pas été choisie au hasard, j'imagine.
Non, pas du tout. Il y aura même, en fait, du coup, le 8 mars, une soirée de lancement, en fait, qui va avoir lieu dans le café de la maison d'édition, vu que la maison d'édition a ses locaux dans un coffee shop à Paris. Ouais. Et du coup, il y aura possibilité de pouvoir se procurer donc le guide sur place au coffee shop, qui se trouve donc 11 rue Blanche à Paris, dans le 9e. Là-bas, on peut donc se procurer même tous les autres livres de la maison d'édition. Il y aura aussi possibilité de le commander en librairie, de le trouver dans les salons qu'on va faire aussi pendant toute l'année. Il y a aussi possible de l'avoir en e-book aussi.
Oui, d'accord.
Donc voilà. Après, ce qui va être très sympa, même si en ce moment, moi, je suis la première à acheter que en e-book parce que je n'ai plus de place pour des livres. Mais ce qui va être très, très sympa, c'est que du coup, on va faire... ça va vraiment être un vrai guide en couleur et on va l'imprimer. Ça va être une impression en couleur.
D'accord.
Donc, ça vaut la peine de l'avoir en...
D'avoir l'objet livre,
ouais. L'objet livre. En plus, comme il y a des quiz et tout ça, pouvoir remplir dedans, il y aura des QCM, tout ça. Donc, ça va être... C'est intéressant de l'avoir entre les mains. Après, en e-book, ce sera aussi très intéressant. C'est juste que du coup, il y aura moins... J'aurais envie de conseiller à la limite de lire ça sur tablette, en fait. Parce que ce sera peut-être plus sympa sur tablette, parce qu'il y aura aussi les couleurs, tout ça. Mais voilà.
D'accord. Moi, j'ai une dernière question qui concerne l'appel à texte autour de cette collection. Puisque donc, le nom de cette collection, c'est À sexe égal.
Ouais.
Et moi, c'est vrai que tout à l'heure, en off, je t'ai aussi évoqué le sujet que aujourd'hui, certains hommes, entre guillemets, se sentaient, ne savaient plus vraiment où se placer. Alors, on ne parle pas des machos, ne savaient plus forcément où se placer vis-à-vis du féminisme. Alors, je pense qu'effectivement, même pour eux, c'est des choses qui peuvent être hyper intéressantes à lire, notamment ton guide, pour appréhender et aussi leur faire comprendre qu'on ne cherche pas forcément à les émasculer, hein, que c'est pas le but, qu'on ne nie pas leurs conditions d'hommes, hein, et ils sont ce qu'ils sont. Et effectivement, je suis pour une égalité des sexes et aussi pour que les hommes ne se sentent pas forcément rabaissé par les féministes, parce que c'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est être tous égaux, avec des droits reconnus pour tous. Mais du coup, est-ce que comment les hommes peuvent se placer par rapport à cette collection? Parce que moi, effectivement, quand tu m'évoques le sujet à sexe égal, même si on veut mettre en avant des textes féministes pour faire valoir les droits des femmes qui aujourd'hui, effectivement, sont quand même beaucoup plus bafoués que ceux des hommes. Mais comment les hommes peuvent s'inscrire éventuellement dans ce genre de collection?
Alors, c'est dans le guide, justement, j'en parle à un moment donné, c'est que l'importance, en fait, du féminisme pour les hommes aussi, justement, parce que c'est un point que j'aborde, c'est « mais alors les hommes dans tout ça ?» Et j'ai essayé de montrer qu'en fait, ça a sa place aussi pour les hommes, parce que de par le féminisme, en fait, le féminisme a aussi aidé à démontrer, toute l'importance de la masculinité toxique un peu, mais poids de ce qu'on met sur les épaules des hommes aussi, en fait, de tout ce qui est sur leurs épaules et qui doivent être absolument viril et être courageux et qu'ils n'ont pas le droit de pleurer et tout ça. Et qu'en fait, c'est aussi dire aux hommes, mais vous aussi, en fait, nous, on demande d'être votre égal, en fait, en droit et tout ça, mais il y a aussi toute une part qu'on n'accorde que aux femmes et qu'on refuse aux hommes et qui est importante. Et je sais que moi, c'est un truc qui me reste en tête, mais vraiment, d'une fois, il y a quelques années en arrière, où j'avais amené mon fils à son cours d'escalade et il y avait un petit garçon qui avait, 4 ans à côté, qui pleurait, et son père qui s'énervait contre lui et qui a fini par le secouer en lui disant « t'arrêtes de pleurer, t'es un homme ou t'es pas un homme ?» Et sur le moment, moi, j'avais juste envie de pleurer, de prendre l'enfant dans mes bras et lui dire « mais t'as le droit de pleurer, et c'est pas parce que tu pleures que t'es pas un homme !» Et j'étais achetée, mais mon Dieu, mais ça m'avait vraiment... Je crois que ça me restera à vie, cette image. J'étais vraiment achetée, mais mon Dieu, et c'est vraiment quelque chose qu'on refuse aux hommes. Ils doivent être virils, ils doivent être forts, ils doivent être courageux. Je veux dire, un homme, ça doit vouloir se battre dans la rue. Il n'a pas le droit de dire « bah non, c'est pas mon truc. J'ai pas envie de me battre, moi. J'ai pas envie qu'on fasse du mal à ma copine, mais j'ai pas non plus envie d'aller me battre et de me rouer de coups. » Ils ont le droit, en fait, je veux dire. Et il y a quelque chose, en fait, dans tout ça qui préjudice toxique aux hommes, en fait, qui est très toxique. Et du coup, je trouve que le féminisme à aider, je pense, à libérer la parole vis-à-vis de ça, vis-à-vis des hommes, et de leur dire, mais vous aussi, en fait, ne vous laissez pas faire par le patriarcat, et manifestez-vous. Et je pense que les hommes, une fois qu'ils auront compris qu'en fait, être féministe, ce n'est pas être misandre, c'est-à-dire la haine des hommes, qu'être féministe, c'est vouloir l'égalité pour tous, et qu'on est là pour défendre nos droits, mais aussi ceux des hommes, je pense que ce sera mieux, et on avancera encore mieux, oui. En fait. Parce qu'on a besoin des hommes dans le combat pour les femmes. On en a besoin, et c'est quelque chose que j'ai montré aussi quand j'ai fait un petit peu un historique du féminisme et de ses pionnières, c'est qu'il y a aussi des hommes qui ont aidé, et que sans ces hommes, on n'aurait peut-être pas forcément aussi vite avancé ou aussi bien à certains moments, et qu'on avait besoin, et que c'est un travail à deux, en fait.
Bien sûr. D'accord. Je te remercie pour cette petite précision, parce que je trouve ça quand même bien aussi de ne pas les oublier.
Oui, et vraiment, du coup, pour le coup, le guide, c'est pas juste les hommes, ils sont méchants, il faut aider les femmes, c'est vraiment essayer de s'exprimer, de parler à tout le monde et de leur dire on va tous en bénéficier. Et on est tous capables de pouvoir aider, et on a tous quelque chose à faire.
Très bien. Alors, avant qu'on close cet épisode, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de nous dire concernant ce guide ou cette collection ou le sujet qu'on a traité aujourd'hui en général ?
Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire et tout ce que j'aurais pu dire. Je sais que, comme je l'ai dit, ce guide, il s'adresse à tout le monde, qu'importe son âge, son genre, son milieu, que je l'ai fait dans le but d'être le plus accessible possible pour démystifier des idées et des malentendus qui gravitent et qui collent à la peau du féminisme. Et que si en plus vous aimez l'humour, il y a plein d'humour, vraiment. Parce que ceux qui me suivent sur Instagram, je pense qu'ils le voient au quotidien. Moi, j'adore rire. C'est déjà dans ma bio, c'est marqué que j'aime rire. Et ensuite lire, écrire et tout ça. Mais j'adore rire. Et du coup, je me suis dit, c'est un texte qui se prêtait à pouvoir vraiment y mettre à fond de l'humour, plus que dans un roman. Et du coup, même dans les quiz, quand il y a des questions, tout ça, j'ai pas pu m'empêcher de mettre des idioties parce que je trouvais ça drôle. Et voilà, il y en a besoin. Et je trouve que c'est un sujet qui est assez grave et important. Et le fait de pouvoir y mettre de l'humour, c'est pas lui enlever de l'importance, mais je trouve que ça aide à pouvoir peut-être mieux se l'accaparer.
D'accord, ok. Écoute, je te remercie d'être venue nous présenter cette collection et ce guide aujourd'hui, donc que vous pouvez découvrir dès ce 8 mars 2024, que ce soit en ligne au prix de vos libraires ou encore mieux si vous êtes à Paris, je vous invite à aller au café de chez Beta Publisher où vous pourrez voir l'ouvrage, rencontrer des personnes avec qui en discuter. Donc je trouve que c'est vraiment bien que vous ayez ça aussi avec l'AME, donc c'est super cool. Et puis, moi, je te dis que j'ai hâte aussi de découvrir les prochains projets qui seront menés dans cette collection et par toi, toujours. Quand même, parce que j'ai envie de le préciser quand même. C'est vrai que, comme on a réalisé, je sais plus, je t'ai envoyé un message, je crois, il y a 15 jours, où je t'ai dit, c'est quand même bien, parce que ça fait 5 ans qu'on se connaît grâce à Wattpad. Et à l'époque, on était... On écrivait juste sur Wattpad et l'une et l'autre. Et aujourd'hui, j'ai eu une phase de réalisation. J'ai dû voir passer un de tes posts et je me suis dit, waouh, quand tu vois quand même le chemin parcouru, c'est super beau. Donc, je tenais à le souligner quand même parce que tu fais vraiment partie des premières personnes que j'ai suivies, qui m'ont suivie et qui sont toujours là. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, alors il y a quelques personnes qu'on garde, mais les gens vont et viennent et c'est pas forcément un mal, tu vois. Mais c'est vrai que... c'est super cool de dire que 5 ans après, on est là et on avance sur plein de projets. Et je trouve que ça donne aussi beaucoup d'espoir et de motivation pour les nouvelles personnes qui arrivent. Ouais. De se dire que vous pouvez y arriver vous aussi et que dans 5 ans, ça se trouve, vous ferez le bilan avec une personne que vous avez croisée par hasard sur un réseau.
Tellement, il y a 5 ans en arrière, jamais je me serais dit ça. Vraiment, pour le coup... Tu me dirais qu'un jour, on serait là à discuter sur ton podcast, déjà. Déjà, qu'on serait là à discuter sur ton podcast avec toi, qui a ton prochain livre qui sort chez Hachette, que moi, j'ai un deuxième livre qui sort dans une maison d'édition que j'adore. Je serais là, je te dirais, mais... Puis en plus, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, 5 ans, c'est une éternité. Pour le coup. C'est une éternité. Donc, c'est vrai que Bah ouais, en fait, ça remonte. Et non, c'est vrai que bah, quand tu m'as envoyé le message, je crois que c'était quand il y a eu la cover reveal, je sais plus.
Peut-être. Je
Mais
sais
tu m'as
plus,
envoyé le
mais ouais.
message, j'ai lu ton message, je me suis mise à pleurer. J'étais, mais oui, en fait, c'est tellement émouvant, putain, c'est vrai. J'étais trop
Ouais,
émue,
c'est
j'étais, mais
vrai,
oui.
ouais. Ouais. Tu vois, quand je me dis, en fait, ça fait déjà 5 ans que je me suis. J'ai osé me relancer dans l'écriture à fond et que tu vois en 5 ans ce que tu es capable de faire.
Ouais.
Waouh, quoi. Et je trouve que du coup, ça fait aussi vraiment message d'espoir et de persévérance pour les jeunes auteurs ou même les moins jeunes, hein, mais qui du coup débarquent aujourd'hui, les primo-auteurs qui se lancent sur les réseaux, qui tâtonnent un peu, qui disent c'est pas pour moi, c'est réservé aux autres et je vais jamais y arriver. Bah, en fait, on avait exactement ces croyances-là il y a 5 ans. On écrivait dans notre coin, on était trop contents quand il y avait une personne qui nous lisait sur Wattpad. Et aujourd'hui,
Vraiment.
on est publié. Donc, c'est pour ça que je sais qu'il y a quelques personnes qui sont là depuis le début et avec qui je peux faire ce constat. Et je trouve ça vraiment encourageant pour les autres, quoi.
Ouais.
Voilà,
Ouais,
c'était
je
mon mot
trouve
de la fin.
aussi. C'est
Je me
un
suis
beau
écartée
mot de
du
la
sujet,
fin.
mais je me suis écartée du sujet, mais je me suis dit que c'était quand même bien de l'aborder.
Ouais, je suis d'accord.
Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, on va clore cet épisode. Samantha, je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Merci de m'avoir reçu.
Avec grand plaisir. Quant à vous, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Et si vous l'avez apprécié, je vous invite à nous laisser un petit commentaire et quelques étoiles. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Bye bye!